Figure d'hier, pour aujourd'hui et pour demain, avec le père Roger Wilhelm.
Maintenant, je vous propose une rencontre avec Edgar Morin. J'aimerais qu'il soit là, mais il ne sait pas là. C'est un homme qui sait accueillir, qui aime la vie, qui en a témoigné toute sa vie. C'est un homme engagé et observateur attentif. Il a traversé le siècle avec passion. À 94 ans, Edgar Morin reste l'un des philosophes les plus écoutés. Et voici donc quelques réflexions qu'il porte sur les événements tragiques de 2015 et de 2016. Il dit ceci. Il s'est créé un terrible malentendu entre le monde arabo-musulman et le monde occidental chrétien. Pourquoi dire malentendu ? Parce que tout le fond du Coran est judéo-chrétien. Il faut insister là-dessus. Judéo-chrétien, le fond du Coran. On y retrouve des références à Abraham, Moïse, Jésus. Et toute la différence naît de l'arrivée d'un nouveau prophète, Muhammad. En dépit de cette unité fondamentale des trois religions, elles sont devenues incompréhensibles et quasiment étrangères les unes aux autres. Le monde arabo-musulman a connu une civilisation très florissante dans le passé. À Bagdad ou en Andalousie, par exemple, le développement culturel dépassait largement celui de l'Occident, celui de cette époque-là, et l'ascendance judéo-chrétienne de l'islam a engendré une vraie tolérance à l'égard des chrétiens et des juifs. Tolérance que l'on retrouve dans les anciens califats ottomans. Il faut aussi souligner qu'au sein de ce monde-là, s'est élaboré, toujours enveloppé par la foi, une pensée rationnelle avec Ibn Khaldoun et d'autres penseurs. Or, le monde arabo-musulman s'est trouvé bloqué, d'abord victime de ses divisions, puis victime de la colonisation ottomane, puis occidentale. La colonisation occidentale, qui a commencé au début du XIXe siècle avec la conquête de l'Algérie, avec le protectorat sur le Maroc ou l'Égypte, puis avec la dislocation de l'Empire ottoman, on pourrait aussi rappeler les accords SIC et PICO de 1916 et les nations très composites aidées alors, disons, artificiellement. Oui, créer de façon tout à fait artificielle comme la Syrie, l'Irak ou le Liban. Qui plus est, après la décolonisation officielle, il y a eu toujours deux poids et deux mesures en faveur du nouveau venu sur la scène moyen-orientale qu'est Israël. Les Juifs, bien qu'ayant été victimes pendant deux millénaires du monde chrétien, sont alors apparus comme le bouclier de ce même monde. Et surtout, de façon étonnante, Israël est devenu l'ultime nation colonisatrice dans le monde. Et la Palestine en souffre. La Palestine en a souffert et souffre encore de la colonisation. Cet état de fait est ressenti comme une injustice et une humiliation à travers tout le monde arabe, même si les États arabes sont incapables de faire à cet égard quoi que ce soit. Toutes ces populations ont un fort sentiment d'identité commune. À cela s'ajoutent tous les échecs, comme ceux du socialisme arabe, de la démocratie aggravée par la dépendance économique à l'égard de l'Occident. Cette situation a empiré après les attentats du 11 septembre 2001, parce qu'alors est apparue une force combattante, fanatique, capable de porter un coup très dur à la superpuissance américaine. Et on a vu très vite se constituer deux axes. Celui, pour les uns, du bien occidental et de la démocratie, avec un axe du mal islamiste, et pour les autres, celui du bien islamiste, avec un axe satanique judéo-chrétien. Les systèmes démocratiques sont bien sûr plus vivables que les systèmes fanatiques ou autoritaires, mais là aussi, la tendance réductrice a joué des deux côtés. En Occident, on considère souvent que tout musulman est potentiellement un islamiste, qui est lui-même potentiellement un intégriste, qui est lui-même potentiellement un terroriste. De l'autre côté, les Occidentaux sont redevenus des croisés, alliés aux Juifs. Et là aussi, une vision réductrice et complotiste s'est répandue. En tout cela, naît la prophétie autoréalisatrice de cette guerre des civilisations, voire des religions, qui ne s'est heureusement pas passée. On a eu par contre deux guerres en Irak, dont la première aurait pu ne pas avoir lieu si les Occidentaux avaient composé avec d'autres alliés et surtout imposé à l'Irak de Saddam Hussein la restitution du Koweït en échange d'une conférence internationale pour régler la question palestinienne. Conférence qui ne s'est jamais faite. Cette guerre qui s'était arrêtée avant de disloquer l'Irak a été suivie d'une autre guerre sans aucune justification qui a complètement détruit le pays de façon irréversible. Là-dessus viennent se greffer une guerre civile et une guerre internationale en Syrie, dislocation généralisée qui favorise le déploiement des hyper-fanatiques de Daesh, à laquelle s'oppose une coalition hétéroclite extrêmement flexible, faible surtout, où les meneurs n'entendent même pas combattre au sol. C'est une coalition privée de la Russie et de l'Iran, incapable de parvenir à la moindre décision d'envergure, elle est dénuée d'une pensée capable de définir des buts viables. Quels sont, en effet, les buts de la guerre? Nous voulons reconstruire l'Irak? La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que cet Irak ne peut être reconstruit. Les Kurdes se sont déjà éloignés et l'hostilité entre sunnites et chiites est terrifiante. On ne pose même pas à Daesh la seule solution viable, qui est celle d'une confédération de tous les pays du Moyen-Orient, comportant donc toutes les religions, et Dieu sait s'il y en a, y compris le christianisme. On aurait pu envisager de constituer cette vaste confédération d'ethnies et de religions. La coalition est promise au même échec qu'en Afghanistan ou en Irak, et en Syrie, on voit mal ce qu'il peut advenir d'autre que la partition.